La représentation au sens large, comme on a pu le voir parce que c'est venu s'inscrire dans l'écriture même. Et donc, en partant de l'idée qu'il s'agit d'une tendance significative de la littérature actuelle parmi toutes les nombreuses autres, et qui, en raison de cette diversité, a été écartée de l'ouvrage en cours de rédaction, n'est-ce pas, du groupe de recherche poétique et esthétique du contemporain. Comme ça. Le roman de l'artiste trouverait sans doute en fait à croiser certaines esthétiques contemporaines déjà identifiées dans le cadre de cet ouvrage, donc celle du minimalisme et de la diffraction, et celle aussi de la vie imaginaire, mais que nous avons souhaité écarter parce qu'elle est déjà largement documentée. Donc, il s'agit aujourd'hui en quelque sorte de sortir des sentiers explorés depuis quelques années, ne serait-ce que pour relancer la réflexion et rebondir sur d'autres problématiques, quitte à les croiser avec celles du groupe de recherche. Donc, c'est dans cet esprit qu'on a lancé l'invitation aux quatre intervenants aujourd'hui, dont je résume rapidement les interventions du mieux que je peux. Donc, Marie-Pascale Hublot, qui a abordé la question à partir de son intérêt pour la littérature et le cinéma, et qui lui permettait de réfléchir au rapport entre esthétique et narration. Donc, elle s'est intéressée à la fois aux clichés cinématographiques comme le duel et la grande blonde, et également des procédés, si on peut dire, cinématographiques en écriture même, de façon à montrer qu'on a un imaginaire qui est pétri par les films. Donc, je résume rapidement, mais de toute façon, on va avoir, en fait, c'est simplement pour vous rappeler, pour engager la discussion. Donc, Karine Bissonnette, pour sa part, à partir d'un événement d'Annie Ernaux, une œuvre qui fait des références, où on trouve en fait quelques références explicites à des films qui reflètent entre autres les états d'âme du personnage, si j'ai bien compris, et qui également utilise des procédés cinématographiques comme le travelling, comme le surcadrage, comme les prises de vue frontales. Ensuite, Brigitte Fontier, qui s'est intéressée à l'œuvre de Quignard en posant plusieurs questions, entre autres, quel traitement est réservé à la musique, comment le texte est-il travaillé à la musique, et avant même question, pourquoi en fait un écrivain s'intéresserait-il à la musique et comment à partir de cet intérêt, comment trouve-t-il à l'intégrer à son œuvre? Et enfin, M. Pellerin, qui s'est intéressé en fait à la poétique appliquée, donc à la fois du côté de la musique et de la peinture, en posant des questions, entre autres, comment transposer la totalité de la toile dans la linéarité du récit. Et par rapport à la musique, en fait, on s'aperçoit que, en fait, à la fois par rapport à la peinture et à la musique, ce qui semble intéresser la littérature, c'est la différence qu'offrent les autres arts. Donc, pour la musique en particulier, comme la polyphonie, comme la tension dramatique. Donc, voilà pour le résumé rapide. Donc, dans un premier temps, on commencerait peut-être par une période de questions. De façon très, très libre, très lâche, à la fois sur les interventions, mais en même temps de façon à ce qu'il puisse y avoir des discussions et des échanges entre tous ceux qui sont présents. Donc, ce n'est pas nécessairement des questions qui sont dirigées vers les intervenants, mais si vous avez envie de rebondir ou de commenter, c'est vraiment de façon très, très, très libre. Donc, voilà. Ici, il s'agit en fait de réfléchir en commun à la problématique du roman de l'artiste. Et s'il y a quelqu'un qui ose.
Moi, j'en aurais eu, mais c'est parce que Viviane ne sera pas contente. Mais là, pris soin d'écarter la représentation de l'écrivain et de la littérature. Je me demandais, malgré tout. Il y a quand même, il y avait une hypothèse, ou au moins une impression qu'on observait davantage dans le roman, là, de représentation, de plus en plus, en tout cas de représentation
de l'art ou de l'artiste. Et qu'effectivement, c'est vrai, quand on avait réfléchi à la table ronde, on s'est dit, bon, ben, comme on a déjà beaucoup travaillé sur la représentation de l'écrivain, de la littérature, ça serait intéressant de, volontairement, de ne pas retenir de ces cas-là. Mais je me dis, en même temps, ça ne peut pas permettre de se poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que le fait est-ce que c'est vrai qu'on est en train peut-être de se tourner davantage vers l'art que l'écrivain, par exemple, l'artiste plutôt que l'écrivain? Est-ce que, malgré tout, même si on veut le mettre de côté, il n'y a pas une réflexion à porter, là, si tant est que l'espèce de prémisse à l'effet qu'on verrait peut-être davantage ou de plus en plus de représentation de l'art et de l'artiste est fondée, puisque de toute façon, les différents exemples qu'on a pu nous donner, je pense entre autres à Gilles Pédret, on voit que c'est pas nouveau, il est à l'époque, c'est nouveau non plus, hein, mais ça aurait peut-être une tonalité ou quelque chose qui pourrait peut-être caractériser le contemporain. Donc, moi, je me dis quelque part, je pense qu'on travaille dans le Bébélo en littérature québécoise sur l'écrivain fictif. Roselyne Tremblay a continué. Il y en a encore des écrivains dans la littérature qui ne sont pas disparus. Mais je me demande si l'art, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça fait que la représentation de l'écrivain et de la littérature ne fait pas. C'est peut-être trop vaste, on peut peut-être le garder juste en arrière-plan et aller plutôt vers des questions plus fine qui nous permettrait d'y aller après. Mais malgré tout, moi, j'aime bien. Ça va comme ça.
Mais en fait, c'est de rebondir peut-être en tant qu'un représentante un peu de justement cette, la partie de la recherche plus sur les figures d'écrivains. Et justement, on travaille beaucoup dans le projet. En fait, c'est toujours sur la mise en scène d'écrivains réels, soit dans des contextes fictifs les contextes romanciers, tout ça. Et dernièrement, on essaie d'orienter, au contraire, mais pas au contraire, mais d'aller voir aussi du côté de la figure de l'écrivain fictif. Donc, pour les représentations d'écrivains dans le roman. Et on a à peine commencé, mais c'est ça, mais je pense qu'il y a un clivage très net entre justement la représentation de la littérature, une grande figure de la littérature, et la représentation d'une figure d'écrivain. Et la personne en tout cas qui s'est occupée de la recherche disait que, en fait, le personnage est écrivain, mais il pourrait être n'importe quoi d'autre, ça ne fait aucune différence. C'est comme sa vie intérieure, tout ça, qui est important pour ça. Donc, c'est simplement rebondir. En même temps, s'il y a une figure de l'artiste qui est plus présente en régime contemporain, je pense que ce serait intéressant aussi de voir la différence entre. Est-ce qu'il y a des mises en scène d'artistes réels? Je pense à un roman très connu là, de Tracy Chevalier sur le Vernet, tout ça. Est-ce que les enjeux sont les mêmes quand c'est un artiste fictif, une figure d'artiste féminine?
Mais je ne sais pas si justement cette représentation, parce que de ce que j'ai pu lire, donc on voit beaucoup des figures du passé, donc ça a quelque chose à voir aussi avec la mémoire, avec la filmation, avec. Je regarde en perspective parce que je sais que vous travaillez sur la question-là un peu, mais en fait, on voit aussi avec Pierre que la mémoire est quelque chose de, en fait, qui est lié à la représentation de l'artiste de façon quand même assez importante.
C'est sûr que la question de la mémoire, disons, culturelle, qui est ce avec quoi on compose aujourd'hui. Bon, c'est très présent dans la littérature contemporaine. Moi, ça dit, je suis pas sûre d'être convaincue que dans la littérature contemporaine, c'est-à-dire, je suppose, la littérature très contemporaine, la figure de l'artiste soit plus représentée qu'avant. Là, à ce niveau-là, j'en suis pas sûre. Je me pose la question. C'est pas quelque chose que j'ai examiné, mais disons que je suis pas certaine d'aller dans ce sens-là. Alors je pense que de représenter une figure d'artiste qui n'est pas un écrivain, ça donne, on parlait d'éthos, ça donne à l'écrivain et à la littérature une place quand même qui... la place de ce qui permet de penser d'autres esthétiques, d'autres pratiques. Donc ça, il y a une manière aussi de valoriser la littérature dans ce recul réflexif sur, finalement, sur des figures d'artistes ou des pratiques artistiques qui ne sont pas la sienne. Bon, c'est aussi une manière de réfléchir à son propre art, parce que l'écrivain désire toujours peut-être quelque chose d'autre que ne lui permet pas l'écriture, et que il y a une sorte de dialectique comme ça, où on va à la fois convoquer une figure un peu fantasmatique, mais modifier sa propre manière d'écrire en fonction de ça. Et la figure d'écrivain, la figure d'artiste, c'est aussi une façon de peut-être redonner une place, une grandeur à l'art, à l'artiste, comme si c'était une vaste communauté, je ne sais pas, enfin, il y a peut-être une dimension aussi où la littérature ne veut pas se couper des autres pratiques pour montrer qu'il y a quelque chose qui se fait ensemble.
Pistolet est intéressante, je pense. Moi non plus, je suis d'accord avec Marie-Pascal, je ne serais pas prêt à dire tout de suite que les représentations de l'artiste sont plus importantes dans le contemporain. Je pense que ce serait vraiment difficile à défendre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas poser la question de la représentation de la littérature sans l'historiciser, voir comment ça se passe en social. C'est que la figure d'écrivain a plus une importance sociale comme elle a déjà eu au 19e siècle en particulier. Donc, la figure de l'écrivain peut-être est moins aujourd'hui un enjeu de légitimation qui est vraiment différent. Il y a plus, ça donne plus cet aura-là, ce prestige-là qu'il y avait dans les représentations de l'écrivain chez Balzac, chez Proust. Donc, la piste que suggère Marie-Pascal, qui est finalement de fédérer des arts qui, eux, ont peut-être pas perdu autant de leur aura, ou en particulier la musique aujourd'hui, ou je sais pas, peut-être de s'inscrire dans une communauté artistique parce que la figure de l'écrivain aujourd'hui, socialement, elle a plus ce capital symbolique qu'elle avait.
C'est aussi le pouvoir de la grande figure exemplaire qui est peut-être effectivement plus qu'on va plutôt aller chercher chez le grand musicien ou le grand peintre.
Oui, ben, Pierre Michon, c'est un bon exemple de ça, je pense, parce qu'il y a une grande nostalgie de ce statut social de l'écrivain du 19e siècle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reprend des figures, en particulier d'artistes, d'écrivains aussi comme Rimbaud, mais surtout de peintres qui ont un aura, qui ont quelque chose qui s'approprie.
On peut peut-être élargir un petit peu et le voir en termes de référent culturel. Au-delà de la figure de l'écrivain ou de l'artiste, ce qu'on observe bien dans chacune des manifestations, c'est que ce sont souvent des classiques qui sont convoqués, ou du moins des éléments qui font partie d'une culture commune, et où on va se référer à ces éléments-là, soit de musique classique, soit des peintres, soit une culture cinématographique qui est partagée, qui va un peu servir de faire valoir. Et peut-être que dans ce sens-là, ce qui paraît le plus convaincant n'est pas de mobiliser une œuvre littéraire antérieure qui a perdu un peu de sa valeur, mais quelque chose qui appartient à un bagage qui est peut-être un peu plus consensuel, soit musique classique, donc un bagage plus large où la littérature n'a peut-être pas le haut du pavé comme elle l'avait auparavant.
Il me semble que dans mes tentatives de réponse, j'irais davantage vers ça. En fait, je me disais, mais là, je connais pas... j'ai pas étudié le rôle ou la représentation de l'écrivain ou de la littérature en littérature, donc peut-être compléter. Mais il me semblerait que la différence serait dans le rôle que vient jouer l'art. Et j'ai l'impression que je pense qu'on l'a tous mentionné de différentes façons, mais l'art, musique, peinture, cinéma, arrive avec son bagage culturel, arrive avec son imaginaire symbolique, ses propres personnages mythiques. Et ça, c'est implicite dans cet art-là. Je pense que Et là, c'est là mon impression. Je ne suis pas certaine. Je pense que la différence serait que la représentation écrivaine, je ne suis pas certaine si elle arrive avec autant de bagages ou si c'est plus une méditation, une introspection, une mise en avant qui se met en place dans la représentation.
C'est sûr qu'on combat les langages aussi. C'est ça qui est intéressant et qu'on voyait d'ailleurs dans les différentes présentations. Et je me demandais, quand on a des références à la musique ou au cinéma ou à la peinture, je dirais qu'on est convié peut-être plus facilement, plus volontiers à chercher une poétique, c'est-à-dire des compositions qui pourraient puiser à cet art-là qu'on signale, hein, on dit, attire l'attention du lecteur. Mais quand on... Que faire, c'est peut-être plus méthodologique, hein, mais que faire quand on a quand il y a peu de référents? Est-ce qu'à ce moment-là, vous seriez plutôt réservé là, à ce côté d'une étude de la composition? Parce que là, tous, vous aviez, c'est dans vos exemples, vous avez tous des référents. Là,
on a répondu à la poule.
Je pense que formellement, parfois, ça peut être très évident sans qu'il y ait référent. Mais s'il n'y a pas l'évidence, c'est une autre question. Ça peut devenir un peu...
C'est vrai que c'est encore... Pour répondre à la question, c'est qu'en fait, quand il y a une mise en scène de l'écrivain, c'est qu'il y a le médium lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une œuvre qui est convoquée, mais c'est toujours à partir de la lecture et l'écriture. Donc souvent, il y a des échos, des motifs mystiques, mais qu'il faut vraiment connaître l'œuvre pour être capable de le voir. L'idée de référence qui est explicite, mais j'avais aussi ma aussi à propos de l'art, justement, là, c'est plus perceptible parce qu'il y a comme un clivage entre. En fait, l'œuvre qui est convoquée n'est pas une œuvre écrite, donc.
Oui, mais il y a le danger, enfin, je dirais, il y a quand même. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec tout ça, c'est aussi un petit peu ce que je disais comme. C'est une sorte de garde-fou, si on veut, à la fois d'indice. Il y a Audrey Fermeton dans un article qui parle de tropisme cinématographique. Donc, c'est une logique indicielle où, notamment, la représentation du cinéaste, du compositeur, du peintre, peut être indicative d'autre chose. Mais je crois qu'il faut faire attention aussi, parce que, par exemple, avec Quignard, bon, et là, le terrain est miné, mais on pourrait, vous avez parlé à la fin de cette, alors attendez, c'était quoi, la capacité imageante de l'écoute, proche de celle du rêve, entre le rêve et le cinéma, il y a beaucoup de liens qui sont faits, et entre Quignard et le cinéma, on pourrait peut-être aussi faire des liens, alors, et pourtant, bon, alors évidemment, il y a des livres de Quignard qui ont été via l'écran, et tout ça, mais c'est pas la question. Il n'y a pas de figure de cinéaste, et pourtant on pourrait quand même aller de ce côté-là, c'est discutable. Ça, c'est
il faut d'indice explicite.
Il n'y a pas d'indice explicite. Alors c'est embarrassant, surtout avec quelqu'un comme Quignard, qui valorise, enfin je veux dire, chez qui la musique est tellement mise en avant. Tout à coup, de déplacer ça du côté, par exemple, du cinématographique avec le rêve, c'est, on marche un peu sur des œufs, je dirais, mais c'est aussi intéressant à faire, surtout qu'il y a tout ce travail de l'image, du montage, du fragmentaire. Et moi, ce qui me frappait quand je vous écoutais, c'est que ces questions de rythme, de mouvement, de durée, de vitesse, elles sont, c'est le cinéma, je veux dire, aussi.
Aussi, oui, le aussi est important. Parce que peut-être que c'est là que tous les arts se retrouvent. C'est, oui, c'est dans le rythme, dans le mouvement.
Ouais. Je vais peut-être intervenir aussi parce que dans un cours passé, assez similaire avec Jolie, justement, j'ai travaillé sur l'écrivain imaginaire. Puis ce qui m'avait tout de suite frappé en lisant mes ouvrages qui étaient liés à ce sujet-là, c'est que pour moi, l'écrivain imaginaire, c'est comme une espèce de présence en miroir de l'auteur dans le texte, comme une espèce de potentiel de création dans la création. Puis c'est tout le temps présenté comme le statut social de l'auteur, d'un écrivain présenté dans l'univers du texte. Puis je trouvais ça vraiment curieux. Pourquoi que c'est le statut
de l'écriture qui est intéressant, alors qu'il y a tout ce potentiel d'imagination et de création qui se fait, qui est répercuté dans le texte, puis qui peut être répercuté dans tous les personnages écrivains dans une création, qui font toutes leurs petites créations, puis ça se sauve comme de façon incroyable. Puis la différence qu'il y a entre, je dirais, le personnage écrivain, puis l'utilisation d'autres formes d'art dans une création écrite. C'est que c'est comme un côté un peu peut-être discordant ou pas parasite, mais comme une greffe d'un autre art qui vient transformer une façon d'écrire, puis créer une nouvelle écriture, ou qui va déplacer la façon d'écrire. Ouais. Qui permet une nouvelle possibilité, qui déplace le mode de description, le mode d'appréhension de tout récit.
À ce moment-là, ça viendrait stimuler un acte ou un processus de création d'écriture, tout simplement, mais fonctionnerait par imitation, transposition, métaphorisation.
Mm-hmm. Ben, quand on écrit un écrivain, c'est comme un processus de miroir.
Narcissique.
Mais quand on écrit un peintre, ben, c'est comme si l'écriture se déformait. Ouais, c'est épouser les contours d'un autre.
Je reviendrai un petit peu sur la question, ce qui a été mentionné tout à l'heure, des langages, des différentes formes artistiques. Et le contrepoint dans la présentation de Gilles tout à l'heure sur l'exemple de la musique et du théâtre me paraissait intéressant parce que ce que tu mettais bien en évidence, c'est qu'il y avait une qualité associée à une forme d'art qu'on retrouvait dans une autre. Mm-hmm. Cette qualité de la théâtralité à l'intérieur de la musique, est-ce que ce serait un résumé un peu abusif que de dire que dans chacune de vos zones d'intérêt, c'est un peu cette idée de la qualité ou de la performance liée à un autre langage qu'on retrouve ou importé dans la littérature. Est-ce que ce serait ça qui rejoindrait un petit peu les différentes positions? Justement, une espèce de force, sans ésotérisme, là, mais qui vient donc modifier un peu la donne du langage littéraire, soit par cette idée d'une qualité ou de ce que peut faire, dans le cas du cinéma, donc la capacité à faire voir ou même de cadrer ou de configurer des souvenirs, parce qu'on a l'impression qu'Annie Ernaux, son cinéma qu'elle nous projette, c'est son passé, c'est jamais son actuel. Et donc, c'est la capacité à reconfigurer le passé à travers certaines images, à le construire comme un récit, nous dirait Ricard, mais que nous permet le cinéma cette idée de montage. Donc, c'est vraiment cette espèce de performance associée à la forme d'art qui viendrait donner l'élan le plus significatif ou le plus perceptible, peut-être.
Ben, pour ce qui me touche, moi, je dois signaler que, bon, ça a été mentionné, j'enseigne dans un cégep, et puis, là, c'est très intimidant d'être avec vous, hein, soit dit en passant, parce qu'on travaille pas dans les sphères de la réflexion, de la théorisation au quotidien. Et au quotidien, la présentation qu'on finit globalement par faire de la littérature est une représentation qui en ferait comme un substrat, un matériau à caractère sociologique. Et souvent, et c'est particulièrement le cas dans le cours de littérature québécoise, 103 pour ceux qui ont fait leur cégep, donc on présente, le cours de littérature québécoise est devenu au fil des ans un substitut des cours d'histoire, des cours de politique, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se ramasse, et l'auteur, sans porter préjudice à son œuvre, l'auteur suprême devient dans ce cadre-là Jacques Godbout. Oui, avec les fêtes à Papineau, par exemple. Donc avec, puis bon, vous savez, vous connaissez l'œuvre cinématographique de Godbout, qui est un essayiste par ailleurs. Il y a quelque chose de très démonstratif, dans la représentation de la société québécoise, il y a un rapport iconique là, qui est relativement facile à établir et puis qui en fait une figure de proue dans l'enseignement de la littérature québécoise. Moi, ça m'embête beaucoup parce qu'avant d'étudier en littérature, je suis entré dans cette école à la Faculté des sciences sociales. Alors, passer de sociologie, anthropologie à littérature pour retrouver de la fausse sociologie, ça m'intéresse pas. Et comme j'ai une formation de conservatoire de musique, donc je me suis à un moment donné intéressé à cette dimension-là pour aller chercher, et j'ai entendu dans les trois présentations qui ont précédé la mienne, des éléments, des échos de mes propres fantasmes, de mes propres désirs. Il a été question de dimension, de, en quelque sorte, d'une espèce de langage des affects qui se plaçait ailleurs. La musique pouvait jouer là-dessus, au plan émotif, un rôle que la littérature n'arrive peut-être pas totalement à jouer. Alors, ce qui fait que j'ai été intéressé par la dynamique de langage, de poétique, la peinture, ou bon, je me suis surtout intéressé à cet égard à la question de la musique. Et j'ai même pu, si vous me permettez l'anecdote, j'ai pu même l'expérimenter. L'anecdote est la suivante. J'avais à lire au poète d'Amérique française il y a fort longtemps, puis c'était la dernière séance avant Noël. Fait que j'ai dit, tiens, je vais faire une nouvelle qui se passe à Noël. Le programme veut que le lundi, on le fasse à Québec, le mardi à Montréal. Alors, mardi, tempête de neige épouvantable, ce qui fait que la séance est reportée en janvier. Alors, avec mon texte de Noël en janvier, je me dis, là, je suis complètement à contre-courant. Et l'idée que j'ai eue, ça a été, parce que vous connaissez la formule, donc on lit des textes et puis il y a des musiciens. Et là, cette fois-là, moi, j'étais assis juste à côté de la pianiste. Et j'ai pu lire, et la pièce qui était présentée, c'est une curiosité, c'est de la musique pour piano de Nietzsche. C'est que Nietzsche avait aussi écrit la musique chorale. Et bon, il écrit, mais écrit, on pourrait dire, assez mal. Hein? Mais c'est très, très beau, mais tu dis quelque chose qui est très, très bizarre. Puis moi, j'écoutais ça, puis je regardais la partition, puis à un moment donné, il y a une espèce de je vous ai parlé de cadence tantôt, donc il reste, sa pièce se termine sur une espèce de suspension à la dominante. Donc, le programme musical ne changeait pas. Et là, ce que je remplaçais, je vais écrire un inédit pour la lecture. Et là, donc, il y avait cette idée que la musique restait suspendue à la dominante chez Nietzsche. Et j'ai commencé un texte, et il s'est avéré que j'arrivais pas à le terminer. Et là, je me suis dit, bon, ben, Nietzsche a fait quoi, lui? Une suspension à la dominante, j'ai trouvé tout de suite. Donc, l'histoire s'est trouvée, et je vous la... pas que ça ait l'air de propos en l'air comme ça. L'histoire d'un jeune homme qui se rentre un jour de l'école et qui voit qui dans un bistrot, enfin sur une terrasse, son père, en train de draguer ce que son père fait sans arrêt depuis qu'il est né. Enfin, il connaît très très peu, le père et le fils se connaissent assez peu, et le fils a un peu de colère contre le bonhomme. Et là, il voit donc la séance, c'est la nouvelle fait en sorte que les deux vont se retrouver. Et la suspension à la dominante, c'est que ce qu'on attend ordinairement, c'est la conclusion sur la tonique. Or, ce que le protagoniste fait, c'est essayer d'aller enfin rêver le clou à son père, mais c'est son père qui a le dernier mot, et ce qui reste en suspens, c'est, j'oublie la phrase, là, mais c'est comme, on se reprendra, ou tu te reprendras. On en dit, la prochaine fois, tu voudras m'assassiner, enfin, tu devras recommencer. Et donc, on reste comme ça dans une espèce de suspension. Je ne sais pas si c'est bon. Ce que je sais, c'est que Nietzsche, dont je savais que la musique serait jouée à ce moment-là, donc me fournissait la résolution dramatique. C'est ce que je voulais dire un peu tout à l'heure par ces éléments qui peuvent nous servir. Parce que, puis je me permettrai aussi, parce qu'on a parlé du cinéma, la musique parfois peut, dans le cinéma, on sait à quel point la musique de film est importante. Et là, je vais citer peut-être celui qui est le plus important du dernier quart de siècle, c'est Ennio Morricone. On sait parce que vous savez que dans certains films de Leone, la musique était faite avant le film et qu'on faisait entendre la musique aux acteurs. Je pense que c'est le cas dans Il était une fois la Révolution. Donc, ils entendent la musique puis ils jouent. Ils jouent une scène en entendant la partition d'orchestre. C'est débile. Mais, vous avez sans doute tous vu le film La Mission, hein, avec cet air de hautbois, d'ailleurs... Et si vous entendez avant, il y a un contrepoint avec un chant choral qui s'appelle Ave Maria Guarani. C'est fait comme du Bizet, là, hein, ou du Borodine avec un thème rythmique, ce contrepoint au thème mélodique. Mais vous avez à un moment donné Jeremy Irons et les Jésuites qui grimpent à travers ce soit la falaise à Iguassu. Et là, c'est fabuleux. La musique reste en dominante, en dominante, en dominante. Et quand le Jésuite réussit, après avoir frôlé la mort mille fois, à mettre le pied sur le plateau, paf, la tonique arrive, on saute sur le divan, et on dit, merde, c'est simple, mais ça marche. Donc, la musique, parfois, elle est avec le cinéma.
Absolument. D'ailleurs, il suffit, on écoute certaines musiques de films, le cinéma est là, et donc la qualité cinématographique est présente et narrative, je précise, parce qu'il y a on sait très bien quand c'est langoureux, quand il y a une crise, une tension, etc. La musique fonctionne avec certaines attentes narratives pour le cinéma. Alors, on va considérer peut-être que c'est un appauvrissement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair que là, entre musique et cinéma, il y a des choses qu'on peut expérimenter, enfin, une expérience d'intermédialité simple, c'est celle-là. On écoute une musique de film et on sait à peu près de quoi il retourne. On sait tout de suite que c'est une musique de film, mais on sait de quoi il tourne. Mais là, je vais enchaîner avec la question des qualités. Mais alors là, on n'est pas dans la représentation, justement. Enfin, je veux dire, par rapport à ce qui était mis en avant, j'entendais qu'il y avait plusieurs choses qui étaient soulignées. Il y a des principes de composition, que j'ai entendu parler, de forme. Et puis, il y a ces qualités-là qui ne sont pas forcément de l'ordre de la composition formelle. Et pour moi, la qualité, la qualité cinématographique est du même ordre que ce qu'on va rechercher, par exemple, quand on parle de tonalité à l'oral, où on n'est pas dans quelque chose de tangible, mais je vais le dire très bêtement, c'est quelque chose que si on a un peu d'oreille, on l'entend. On sait dans quel registre, dans quelle tonalité on est. Et il y a des attentes qui sont reliées à ces tonalités-là, etc. Alors par exemple, pour l'esthétique filmique, la question de la durée, de la lenteur, du ralenti, par exemple, tout ce qui touche au traitement du mouvement, d'une visualité en mouvement, mais qui va jouer sur des vitesses, là, on va la qualité cinématographique peut être présente. Mais ce que je trouve, idem pour le montage, certaines formes de montage peuvent évoquer le cinéma. C'est ce que je voulais montrer un petit peu succinctement avec L'homme blanc. Mais ce que je trouve intéressant dans la littérature, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'aller prendre quelque chose d'un art et puis de le plaquer. Ça va se mettre en place dans un dialogue, dans un jeu d'écart par rapport à d'autres. Bon, à l'intérieur d'une écriture qui transforme ça, qui intériorise ça, qui s'approprie, et ça, il ne faut pas le perdre de vue jamais.
Le cirque dans un
Ben c'est l'artiste ce que disait l'artiste en saltimbanque, mais ça je pense qu'il n'est pas le seul. D'ailleurs Michon aussi, il y a le Pierrot qui est une sorte d'homme blanc, mais lui il s'appuie sur la peinture, voilà c'est ça. Donc oui, le cirque est présent. Il y aurait peut-être un autre atelier. Mais bon, je ne sais pas quoi en penser. Je sais qu'il y a une étude qui a été faite sur la représentation de l'artiste en saltimbanque. Je sais, c'est le titre d'une étude, mais que je n'ai pas lu. Je ne m'avancerai pas. Ça vient pas de nulle part.
Moi, je trouvais quand même l'idée de performance intéressante avec l'événement, parce que ça reste vraiment un texte qui est écrit avec une telle volonté pragmatique de persuasion. C'est réitéré par Ernaud. Je vais aller au bout. Si je m'inscris pas à temps, je vais me mettre du côté de la domination masculine du monde, etc. Donc, je crois que quand même, cette façon d'écrire qu'on peut rapprocher des techniques cinématographiques a quelque chose du désir de démonstration, puis à la limite de la performance.
C'est peut-être un petit peu paradoxal pour Ernaud, parce que il me semble que ce travail de monstration, de montage, met un peu à distance, et donc le détache de la narratrice. Ce qui pourrait donner l'idée d'une espèce de froideur médicale. C'est un peu épouvantable comme image. Donc, de vouloir organiser le souvenir, de le configurer un peu comme ces images qui vont s'enchaîner, est-ce que c'est pas, paradoxalement, justement, de repousser, de mettre à distance, de le détacher de soi? Est-ce que ça perd pas, justement, de son efficace du point de vue de la démonstration?
c'est assez particulier parce que ça peut paraître comme ça. En même temps, Hermos passe vraiment dans un état où elle va revendiquer cette écriture-là pour dire « je ne peux pas écrire davantage parce que c'est comme ça que je m'en rappelle, donc c'est comme ça que je dois les écrire. »
Les parenthèses, là.
Exactement. Je ne peux pas utiliser de métaphores parce que si j'utilise des métaphores, c'est justement, je rends ça plus littéraire. Alors qu'en même temps, il y a un travail littéraire. Ce n'est pas juste ce qu'elle a vécu, comment elle s'en rappelle qu'elle transcrit ça. Ce n'est pas simplement un enregistrement de la réalité.
C'est-à-dire de faire le retour au cinéma, ou en tout cas de se voir, quand tu parles de mettre à distance, on peut peut-être le voir comme quelque chose qui est froid, mais en même temps, je ne peux pas voir de froideur. Moi, chez Arnaud, je dirais plutôt une sorte peut-être d'étrangeté qu'on essaie de signifier, je ne sais pas. Avec les photos. Avec les années,
oui.
Avec ce qui vient, ça va. Est-ce que vous avez déjà parce que vous avez travaillé sur l'événement, est-ce que vous voyez un petit peu, avez-vous commencé à réfléchir assez sur les années pour voir comment, avec la photographie, il y a peut-être des différences ou même aussi des similitudes?
Ah oui. En fait, les années m'ont vraiment une progression. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler sur l'événement, mais aussi, surtout les amis. Puis, même si on regarde simplement, bon, je ne vais pas aborder ça d'un point de vue cinématographique, mais on avait déjà parlé d'une espèce d'une fluidité qui peut rappeler d'ailleurs celle du cinéma dans les images, dans tout ce qui est social puis qui est transcrit.
Sur la durée,
oui, aussi,
qui passe par un montage d'images, tout ça.
Puis ce qui m'intéresse, c'est justement cette... Par moments, il semble y avoir des arrêts sur l'image, de phrases très très courtes, mais en même temps qui frappent l'imagination du lecteur. Puis c'est ça qui m'intéresse, parce que je crois que c'est dans ces moments-là où Hermo finalement réalise ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire va transmettre quelque chose à son lecteur.
Je me demandais chez Kina, c'était une scène où la musique et la peinture interviennent. Est-ce qu'il y a une différence dans le traitement de la musique et de la peinture, ou s'ils en parlent de la même façon, ou s'ils l'abordent de la même façon?
Comme ça, je dirais, juste par impression, puisque je n'ai pas étudié la peinture chez Kian, elle est nettement moins dominante. Déjà, et il semble se greffer, et les apparitions de la représentation de la peinture semblent se greffer autour du référent musical, donc pas directement dans le récit, alors que, et là je parle juste des romans, donc je n'ai pas en tête ces textes-là de ces essais, mais dans les romans, on portait à sa robe probablement, donc ça c'est... différent. Et là, on aurait peut-être un traitement de la peinture en Terrasarum qui est similaire à la musique. Autrement, la musique arrive presque comme prétexte à l'œuvre. Donc, le récit et la musique sont impliqués et la peinture vient de l'inviter à la musique. Mais ça, c'est intéressant probablement pour renverser les perspectives, pour voir comment un texte qui centre sur la peinture.
Justement, je crois que vous avez écrit une nouvelle dans l'atelier des apparences autour d'une œuvre, ou en fait des œuvres de la peinture. Est-ce que, comment vous abordez la différence entre la peinture et la musique? Est-ce que c'est différent dans votre approche, ou est-ce que...
Dans ce cas-là, bon, l'atelier des apparences, c'était un collectif autour de l'œuvre de Paul Béliveau. Et déjà, Paul Béliveau, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un peintre qui travaille depuis, je dirais, 25 ans en reproduisant des œuvres connues, ou en, par exemple, ou en reproduisant des têtes connues comme Rimbaud. Mais ce qu'il fait depuis des années, c'est il peint des livres. Il montre des vues en coupe d'une bibliothèque. Avec des thèmes qui vont se dégager. Donc, il achète, c'est un collectionneur de vieux livres, il fait les boutiques d'occasion, les livres de bibliophiles. Et là, il projette des choses, il va intégrer des images qui sont connues. Justement, le cliché cinématographique peut entrer là-dedans parce qu'à un moment donné, il va suggérer une scène. Et il peut mettre ça donc en contact avec des icônes comme la chute du Niagara. Alors nous, ce qu'on avait à faire, c'était de réagir à chacun à des toiles, à une ou plusieurs toiles, et puis on construisait une histoire. Mais là, c'était d'imaginer un peu comment cet instant figé est-elle soit le point de départ ou le point d'arrivée d'une histoire donnée. Et je vous avoue que je ne me rappelle même pas ce que j'ai écrit là-dedans et à partir de quelle œuvre. C'est épouvantable. Je ne me rappelle pas. Pourtant, ça n'a pas très très longtemps. Je suis désolé. Là.
Ah non,
mais bon, vous voyez un peu le contexte général, mais... Non, je ne me rappelle pas.
Et j'imagine que c'est ça, la démarche quand même est différente entre réagir à une peinture et construire à partir de la musique.
Parce que dans un cas, on est dans un art figuratif. Mm-hmm. En tout cas, dans le cas de Paul Milvaux, c'est de la figuration. Alors qu'en musique, la portée figurative de la musique, bon, au 19e siècle, on s'est penché sur la question, puis au 20e, on s'est posé la question, est-ce que la musique peut représenter quelque chose? Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est dans l'art abstrait par excellence. On est juste dans la suggestion. Mais pensons à la musique à programme du 19e siècle, où on concevait quelque chose qui puisse suggérer quand même des choses relativement précises. Encore qu'on passait par de la musique à caractère folklorique, chez Brahms, par exemple, ou chez Dvorak. Donc là, on suggère au Bartok, Bartok a carrément fait un travail d'ethnomusicologie, d'aller ramasser des choses en Roumanie, en Hongrie, qui représentait quelque chose. Le premier, d'une certaine manière, à avoir réfléchi là-dessus, puis est arrivé à la solution complètement opposée, c'est le Beethoven de la 6e symphonie. Les 5 mouvements sont titrés comme scène de la campagne, ruisseau, la tempête. Et jamais, quand on dit, ça ressemble à un ruisseau, Beethoven paraît-il devenait furax, ça ressemble pas à un ruisseau, c'est pas un ruisseau, je pense qu'on est en train de décrire un ruisseau, je décris pas avec le croche, bon. Et pensons à certains Gershwin, An American in Paris, là, il suggère peut-être quelque chose qui serait comme une espèce de frénésie de la circulation, il va travailler sur les contretemps, les syncopes, pour suggérer l'animation de la rue, ou Honegger, avec sa... Mais c'est pas une représentation du train, c'est de dire, voilà, il y a une énergie dans le train dont on pourra peut-être retrouver quelque chose dans la musique, ou le sac du printemps chez Stravinsky, ou... Il y a eu des... Mais on n'est pas allé très, 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 très loin dans la représentation, parce que ce qu'on a probablement fait de plus fort, c'est quelque chose qui nous amène dans une tout autre avenue, c'est la musique concrète avec Pierre Schaeffer, Pierre Henry, avec donc là, l'échantillonnage, on est dans les années 50, on prend de la musique, du bruit, on met ça sur un support qui est à l'époque, c'est les supports sur ruban, on commence à jouer avec ça, et là, on entend, on construit un véritable oratorio, chez Pierre Henry par exemple, avec son Orphée Eurydice, où on entend à partir d'une torsion de ruban, d'un bruit, je ne sais pas quelle est la matière, peut-être que c'est seulement ça, et on entend le rire affreux de Hadès quand Eurydice est à jamais retiré à Orphée. Une espèce de ça glace le sang, mais est-ce que c'est de la représentation? Non, on se ramasse avec des réflexions qui nous amènent il me semble, vers autre chose qu'une représentation comme la peinture peut en faire. Donc, pour moi, il y a deux choses différentes, c'est-à-dire que les vecteurs à l'œuvre dans la musique, bon, sont essentiellement horizontaux et verticaux, donc c'est-à-dire la linéarité de la mélodie, puis la verticalité de la polyphonie, et de voir comment, au plan poétique, on peut aller chercher ça. Alors que du côté de la peinture, bon, je pense à l'essai de Roland Bourneuf, il posait la question, mais il l'a fait remonter jusqu'à Horace avec le fameux Ode pictura poesis. Donc, au duel, parfois, la chose a été évoquée, au duel, parfois, que les artistes des arts visuels, les artistes de la littérature vont éprouver, mais en même temps, avec la complémentarité qui fait, comme on dit, il y a une espèce de convivialité qui s'établit entre les praticiens des différents langages. Et parfois, ce sont les mêmes qui font les deux, comme, bon, c'était évidemment à ce propos, Roland Giguère.
C'est Ça va être une question sans doute très belle, mais est-ce qu'à l'inverse, on pourrait penser, imaginer, écrire comme une peinture?
Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'abord, ce n'est pas une question bête, c'est une question épouvantable. Vraiment, votre choix d'adjectif n'est pas adéquat. Non, c'est parce qu'on pourrait la poser à l'envers, répondre à l'envers, c'est-à-dire, et Bourneuf, il me semble que c'est comme ça qu'il commençait, dire, d'abord, les peintres ont été fascinés par la littérature aussi, et non seulement dans la mesure où ils représentaient Salomé, mais dans la mesure où ils vont intégrer des textes, et ça se fait de façon très ancienne, ils vont intégrer des textes, donc l'écriture comme une graphie, pensons peut-être à... aux écritures idéogrammatiques comme le japonais, par exemple. Donc, on va entrer, ça devient comme une partie de la substance peinte, et on comprend, quand on regarde l'œuvre de Roland Gigas, je reviens à lui, avec son œuvre de graveur, des fois, là, on est, mon Dieu, on est sur le bord d'une nouvelle écriture, d'un nouveau système de transcription. Et en même temps, là, c'est fabuleux parce que nous utilisons des langages, enfin, un alphabet. Donc, oui, selon le socio, il n'y a pas de rapport. Le rapport entre le signe et la réalité n'est pas celui que les idéogrammes entretiennent. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait qu'on pourrait, dans la substance même, la couleur de la ligne d'un côté, et puis l'alphabet de l'autre côté, est-ce qu'on pourrait faire des choses? Ben oui, peut-être plus du côté de la poésie. Pensons au pictogramme. Pensons à des ouvrages... Ben, vous savez, nous, à une époque, moi, je suis cofondateur d'une petite maison d'édition à laquelle je n'appartiens plus, qui s'appelle Les Heures Bleues, et il y en avait 2-3 programmes éditoriaux, puis parmi lesquels il y avait un volet qui était littérature et art visuel. Et là, il y a donc des livres qui ont paru dans cette collection-là, je pense à Julie Stanton, entre autres, et on essayait d'aller vers quelque chose comme ça. Et bref, on a découvert que, bon, c'est René Bonenfant, qu'on a perdu un roi qui avait lui-même affiché de grandes sympathies pour les arts visuels dans les livres qu'il faisait à l'époque. Moi, j'ai constaté que la réflexion que je pouvais faire là-dessus n'était pas compatible avec le travail d'éditeur que je pouvais y investir. Mais c'est certain qu'à cette question pas bête, il n'y a peut-être pas encore beaucoup de réponses, mais il pourrait y en avoir dans la mesure où on déciderait d'aller, première étape en écriture expérimentale.
En fait, dans la mesure où on considère que le passage d'un art à l'autre exige une adaptation, un ajustement, donc en fait, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas qu'on transpose la peinture dans le récit, mais voir comment les gestes de
l'art. Oui, je pense que c'est ça, la question du geste est très importante. J'ajouterais une chose, il y avait, on ne parlera pas de genre littéraire, il y a une curiosité, je n'ai jamais vu les œuvres en question parce que elles sont inaccessibles, mais c'était ce qu'on pratiquait au début du 20e siècle, au moment du passage à l'époque bolchevique. Là. Donc, ça se fait dans les années 1910-1920. Il y a quelque chose qui m'a semblé tenir lieu du genre littéraire qu'on appelait en russe almanach. Et là, c'était comme une espèce de scrapbook où il y a du texte, et j'oublie le nom de l'artiste qui faisait ça, et il mettait tout, là, il barbouillait, il mettait des dessins de ses enfants, il mettait des textes, puis il y avait une espèce d'œuvre globale qui naissait de tout ça, qui ressemble complètement à un carnet d'esquisses, mais ça devenait le résultat. Bon, j'ai cherché à voir ça à un moment donné, j'ai jamais vu ça. Pensons aussi aux suprématistes, ou à toute l'équipe de Mayakovsky, il y a peut-être des réponses à vos questions, là. Mais c'est du côté du livre d'art, je pense qu'on aurait la réponse la plus précise et la plus achevée.
J'aimerais ça revenir sur la question du langage, excuse-moi, avec une autre question bête, donc épouvantable. prenant un peu l'intérêt pédagogique dont tu nous parlais tout à l'heure, on se retrouve dans une classe... On leur dit, regardez, il y a toutes sortes de jeux de rythme, toutes sortes de jeux d'assemblage, qu'on a à l'intérieur d'une œuvre. Mais est-ce que la musique ou le cinéma ne sont pas simplement des adjuvants pour nommer ces choses-là? Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir dire, ce n'est pas seulement que Proust qui décide de jouer avec sa longueur de phrase, mais véritablement une influence du cinéma ou de la musique? Qu'est-ce qu'il faut être capable de pointer pour dire c'est plus que simplement les mots faciles du cinéma et de la musique pour décrire une réalité qui n'est pas que littéraire?
Moi, je pense qu'il faut une convergence d'avis. C'est-à-dire que si c'est ponctuel, c'est pas suffisant. Enfin, c'est vraiment difficile. Si entre la représentation, la figuration, des formes de composition, des qualités, il y a quelque chose qui se répète, là, ça commence à être plus, je dirais, plus convaincant. Je le dirais comme ça. Maintenant, c'est pas toujours si évident parce que c'est aussi une question d'interprétation. On interprète, mettons, tel traitement, telle image ralentie avec le cinéma. Donc c'est non, mais cela dit, l'interprétation, ça fait complètement partie de l'œuvre. L'œuvre programme en partie cela, et donc il faut négocier, bon c'est comme tout herméneutique, il faut négocier entre des indices qui peuvent être ouverts pour plusieurs d'entre eux et une interprétation qui va faire appel à la culture de l'interprète, évidemment, s'il n'y a pas, ben, c'est tout. Mais moi je dirais qu'un critère important, c'est quand même une série d'indices qui permettent d'aller dans tel sens ou dans plusieurs sens, quand c'est le cas. Bon, Pascal Quignard, c'est clair que là, il n'y a pas une seule... Il ne se contente pas de parler d'un musicien.
Une surenchère.
Oui, mais...
Non, peut-être avec moi.
Juste pour... Je pense que ce qui est possible, puis ce qui est intéressant, en même temps troublant, c'est la lecture que je fais en présentant ça, en disant « voilà, c'est de la musique, je l'ai trouvé ». Vous pourriez arriver au même résultat avec un langage cinématographique.
Absolument.
Et là ça oui. devient un petit peu embêtant, non?
Non, ben, je veux dire, il y a quand même, je dirais, un sine qua non. C'est-à-dire que pour parler de langage cinématographique, il faut qu'il y ait une certaine forme de visualité et que je puisse montrer, faire un rapport. C'est pas simplement parce que on travaille dans du rythme qu'on est soit dans la musique, soit dans le cinéma, soit dans la peinture, puisqu'il y a du rythme dans la peinture aussi. Donc, je veux dire, la question du visuel, du rapport entre le visuel et le sonore, le montage, sont quand même des critères, je dirais, il y a des balises.
Ok, donc pour revenir, quand vous questionnez quels sont les indices langagiers, on parlait d'une récurrence ou une convergence d'indices, est-ce qu'il ne faudra pas à ce moment-là y aller en disant qu'il faut des indices à différents niveaux, donc des indices dans la thématique, des indices dans la structure du texte et des indices dans le langage? Et là, je viendrais comme confirmer ou dire, m'assurer que j'ai un ensemble d'indices relativement convaincants au lieu d'un titre.
Oui, mais faut, enfin, moi, je me méfie quand même des grilles qui seraient trop rigides. Faut faire aussi attention à ça, parce que, bon, par exemple, le critère générique que j'invoquais tout à l'heure, il y a certains genres qui sont marqués par le cinéma, qui étaient, il y a des gens qui étaient, par exemple, si on prend le genre policier, un écrivain aujourd'hui peut travailler dans ce genre-là, par le détour du cinéma, il y a toute cette dimension-là. Elle n'est pas langagière, elle est plus générique. Et bon, donc on fait appel à plusieurs types de... Ça, c'est un des niveaux. Et c'est ça la difficulté. C'est que enfin, je veux dire, si on s'intéresse, par exemple, quand on prend le policier, entre le cinéma et la littérature... Je veux dire, je connais pas l'histoire du roman policier, mais au XXe siècle, assez rapidement, le cinéma va laisser sa marque sur ce genre littéraire. Bon, et maintenant, je veux dire, dans le contemporain, ce que je trouve, il y a la possibilité pour l'écrivain, il la saisit ou il ne la saisit pas, de reprendre le vieux genre du roman policier
par le détour du cinéma. Et en jouant sur cette épaisseur, si on veut, intermédiaire, associée à ce genre-là, par exemple. Bon, je m'éloigne un peu, mais le critère générique est quand même, en tout cas pour ce qui m'a, pour mon sujet, un critère qui peut jouer très fortement quand on a Western ou avec Eschnoz.
Ouais, Eschnoz, hein.
Oui, complètement.
Cherokee déjà. Ouais. Dans Cherokee déjà, c'était ça. Ouais. Non, mais bravo, mais je viens de comprendre Cherokee.
Des fois, on comprend ça un temps plus tard. Merci.
Moi, tout à l'heure, ce que j'avais parlé, moi, je disais que pour la question du cinéma, en tout cas, il me semble qu'il y a un intermédiaire entre le parler d'une influence. Ça n'a pas influencé la littérature, ça a influencé notre perception, le cinéma, complètement. Donc aujourd'hui, notre perception même est cinématographique. Le train est arrivé un peu avant le cinéma, quelques décennies avant le cinéma, mais il créait déjà ces espèces de travelling-là. Je pense que parfois, il peut y avoir des pas d'avance même qui soient faits dans les inventions perceptuelles par la littérature, qui sont ensuite rattrapées par la technique. Donc, on peut parler de cinématographie, mais je pense que Joanne Villeneuve, qui traite beaucoup de ces questions-là, parlait à un moment donné de cinématique dans ce sens-là, dans un sens qui n'est pas cinématographique, donc pas le langage cinématographique lui-même, mais des perceptions cinématiques qui seraient typiquement moderne, disons, qui aurait commencé avec le début du 20e siècle.
Mais bon, le cinéma est une esthétique qui est complètement basée là-dessus.
Qui est un accomplissement de cette vision cinématique-là, parce que c'est vrai qu'en littérature, il y a peut-être un petit peu plus de lenteur, d'inertie, la digression, la phrase force à une certaine inertie peut-être plus grande. En tout cas, c'est une hypothèse, il me semble.
La cinématique peut jouer
aussi bien de la vitesse que de la lenteur. Pardon? La cinématique
peut jouer de la lenteur extrême, c'est ce que
évidemment.
Petit dans Western.
Évidemment, mais justement parce qu'on ne peut pas tout dire en même temps, parce qu'il y a cette question-là que je pense que Claude Simon est en avant là-dessus. Je relisais Le Jardin des Plantes, mais avant, ça a toujours été sa question. Quand il dit un homme pense, il cite, je suis plus trop Tolstoy, puis ensuite un autre, puis il dit un homme pense mille choses à la fois. C'est ça son but, ça a été de créer des superpositions comme on peut faire au cinéma. L'impossibilité de le faire dans la phrase.
Simon est un cas intéressant parce que lui, il travaille vraiment beaucoup avec la peinture. Bon, la peinture, c'est quand même l'art auquel beaucoup d'écrivains se renvoient. Et maintenant, on est en train de le relire avec le cinéma. Effectivement, il y a les mêmes choses pour
lui. Dans Jardin des Plantes, c'est carrément, ça finit sur un scénario détaillé de la scène qui finalement résume toutes les strates. Toutes les couches qu'il a posées avant dans une scène où il explique un scénario. Ouais, Simon pour le cinéma.
Absolument.
Ouais.
Oui.
En même temps, la façon de faire le cinéma change aussi. Elle a évolué. Ce qui était cinématographique avant.
Je pense, c'est-à-dire là, si on prend Simon, si on prend Rob Grier, pareil, Rob Grier, je veux dire, lui, Simon et Rob Grier renouvellent le roman à partir du cinéma, mais aussi il cherche à combattre le roman avec le cinéma, c'est-à-dire à combattre une certaine, justement, ce dont on parle beaucoup pour le contemporain, c'est-à-dire une certaine narrativité qu'on peut, enfin, je veux dire, le plaisir de raconter, comme on dit. Et ça, c'est une grosse différence, justement. C'est pour ça que quand au début, je parlais du lien entre esthétique et narrativité, c'est qu'il y a une tension aujourd'hui encore, mais je pense qu'elle ne se joue pas de la même façon chez un Rob Grier ou chez un Simon que chez, là, je suis en train de lire de l'idéal. Bon, voilà, c'est pas... C'est une histoire, on pourrait dire, voilà, c'est une histoire. Le cinéma est très présent, à la fois représenté, mais intégré dans une lenteur extrême.
J'ai peut-être un récit qu'on a étudié, notre équipe.
qui, quand on travaille sur le récit contemporain, le récit comme genre, hein, puis il y en avait un que j'aimais bien, de Diane Jocelyne Côté, Chameau et compagnie. Je pense qu'elle écrit deux choses. C'est une prof de philo qui était au cégep de Chicoutimi. Et dans Chameau et compagnie, ce qui était intéressant, c'était de voir comme...
Quel titre?
C'est... Oui, hein. c'est vraiment, au fond, ça se récite là, pendant à peu près, couvre à peu près 2 jours et demi de la vie de nos femmes. Donc, on est déjà dans le quotidien. Hein, on suit ce qu'elle fait là, au fil des heures. Elle vient d'épicerie avec ses sacs. Bon. Mais ça commence comme si c'était un film qu'on nous présentait et qu'on décrivait. Donc, on en décrit au départ un peu les premières images. On essaie de décrire aussi le support, là, les changements d'un chapitre à l'autre. Pendant un temps, en tout cas, on a l'impression qu'on est en train de décrire un film qu'on est en train de lire et regarder. Là. C'est assez particulier comme récit. Là, et ça, c'est sûr, quand on voyait des cas aujourd'hui, je me dis, bon, on est à la fois à la limite, on représente un langage. Jusqu'à quel point on intègre aussi le langage cinématographique. Si on voulait voir, j'y avais réfléchi plus dans un colloque sur l'adaptation, puis je trouvais ça intéressant. Puis c'est comme si on avait une adaptation, hein, on pouvait réfléchir à l'adaptation à travers un exemple comme celui-là, qui n'était pas une vraie adaptation, mais qui avait l'air de poser les problèmes de l'adaptation, en tout cas de les incarner. Donc c'est très singulier là, comme récit. Hein.
Je vais me précipiter.
Pourquoi tu me le diras quand je ne lis pas, évidemment, comme très souvent, après quelques années, je pense qu'on avait 2 exemples. Peut-être que tu ne trouveras pas sur votre raison.
Ça fait penser à un certain type du cinéma, justement, ça dépend du cinéma, le cinéma des années 70. Où on avait des films sur le quotidien, où on voyait madame qui fait bouillir son eau, faire son petit déjeuner.
En tout cas, c'est super intéressant. Ça, on parle. Mais parce que je pensais, au fait, j'avais 2 adaptations du roman de Nabokov, Lolita. Et en fait, celle de Julian Mann, celle de Stanley Kubrick, et puis le roman. Et moi, j'ai vu les deux. Et j'ai le roman, et j'ai pas aimé le roman, et en fait, quand j'ai revu le film de Julian Mann, c'est une adaptation extrêmement fidèle. C'est qu'en fait, le roman est un peu froid parce qu'il décrit de façon très cinématographique tous les plans, mais c'est des plans très serrés de Amber qui ouvre le congélateur et puis on voit la glace de toute façon et tout ça. Et finalement, je trouvais que c'est une adaptation très, très fidèle que Gellman avait fait du roman et qui ne pouvait être faite que dans les années 90, parce que l'adaptation de Stanley Kubrick, ben, à ce moment-là, le cinéma était, je vais peut-être dire démenté, mais peut-être plus narratif, où là, justement, tout l'aspect plus, tous les gros plans, tout ce qui était plus du côté de la sensualité était comme complètement... en fait, c'est plus l'histoire qui est reprise à la façon du cinéma. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est ça, je trouvais que c'était comme ce roman-là était un peu construit comme un scénario. Il manquait la chair que finalement Guillemin a donnée avec ses acteurs, avec sa musique, la musique de Ennio Morricone en plus. C'est ça, c'est seulement avec le cinéma qu'on fait maintenant que l'on pouvait vraiment. Donc, qu'est-ce que c'est cinéma
biographique ou ça? On va relire, Nabokov, oui.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, est-ce que c'était vraiment cinématographique dans le temps? C'est pour ça qu'il y a un peu comme revenu. Qu'est-ce qui fait que ça allait, en tout cas?
Mais vous avez vu le Nabokov après avoir vu les films, c'est ça?
J'avais vu celui de Julian Mann, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai lu le livre, puis après j'ai vu celui de Kubrick, c'est ça, puis j'avais en particulier le film que j'ai aimé en premier.
Ouais, je sais pas quoi répondre, mais c'est une excellente question, et ça touche à cette part d'interprétation.
Ouais.
Et donc, forcément, quand on lit, on va aller chercher dans un bagage et dans quelle mesure, toute la question est de savoir dans quelle mesure
ce bagage qu'on va chercher correspond à quelque chose qui a été prévu ou programmé, disons. D'ailleurs, il y avait une question de programmation, vous avez parlé de programmation, programmée par l'auteur. Et là, je crois qu'il faut, à ce moment-là peut-être se distinguer les deux, c'est-à-dire être prudent là où il n'est pas du tout évident que quelque chose a été programmé par l'auteur, d'une part, mais d'autre part, se donner le droit malgré tout d'interpréter, parce que la lecture et la relecture, c'est aussi quelque chose qui est pris dans le temps et dans l'histoire. Et justement, Simon, qu'on va relire maintenant beaucoup plus avec le cinéma, alors qu'il y a eu beaucoup de travaux sur Simon et la peinture, c'est une, je veux dire, la lecture, elle est prise dans l'histoire aussi, et il faut le savoir, mais bon, voilà, c'est ma façon de répondre.
Oui. Si vous me permettez, il y avait un exemple célèbre qu'on nous apprenait autrefois, qui était la scène de changement de focalisation la scène des commises agricoles dans Madame Bovary, où on disait que Flaubert n'avait certainement pas l'intention de jouer de l'antique qui n'existait pas. Ce qui n'empêchait pas. Et d'ailleurs, quand on lit la scène, ça marche, hein? Oui. Ça marche très bien. Donc, c'est la scène où il y a le concours du cochon de l'année avec Charles, et puis après ça, il y a Emma qui qui a des vapeurs à l'étage de la mairie. Et puis, il y a un jeu, évidemment, ce qu'on peut faire quand on s'amuse avec une lentille de caméra. Donc, on peut aller chercher, mettre le point focal à distance ou de façon rapprochée.
C'est sonore, c'est pas visuel. Au sens où on entend, mais il n'y a pas de jeu visuel. C'est seulement que tout d'un coup, on entend
Oui, mais c'est ça, il y avait quelque chose de cet ordre-là où... oui, mais cela dit, celui qui lit le roman reconstruit son cinéma. Et à l'époque, on trouvait ça assez fort. Mais je pense qu'effectivement, on pourrait, sur la foi de l'évolution technologique d'un art comme le cinéma, parce que la littérature, est-ce qu'on peut parler de progrès technologique?
Non, mais l'idée que la littérature devance
en fait, pas d'avance. Oui. Mm-hmm. Moi, je pense que Flaubert, plus largement, contribué à l'invention de l'objectivité au 19e siècle, oui. Et qu'à ce titre-là, il a contribué à l'invention du cinématographe, si on veut. C'est lui qui, pour la première fois, effacé. J'ai dit Balzac, je voulais dire Flaubert.
Flaubert a effacé
l'énonciateur pour mm-hmm. créer une mise à distance objective, pas objective dans un sens scientifique. Mm-hmm. Mais oui, en même temps, la science positiviste s'est apparue à la même époque. Mm-hmm. Tout, donc, plus largement, il a contribué à cette invention-là.
En fait, ce qui est formidable, c'est qu'avec notre expérience, même pas soupçonnée par Flaubert, nous, notre expérience d'amateurs de cinéma. J'allais tantôt à propos de mon roman politique, j'ai l'impression que la télévision et les téléséries ont à voir, puis c'est une question même à la limite de construction, de modèle en série à la façon de M. Ford. Là. Mm-hmm. Mais nous, parce qu'on arrive beaucoup plus tard, 150 ans plus tard, et qu'on est enrichi par les expériences esthétiques nouvelles, donc on est en mesure de réveiller dans les textes anciens des aspects qui était peut-être de l'ordre de la latence ou qui, tout simplement, c'est qu'on fait flèche de tout bois, peut-être. Mais il reste que le langage narratif de Flaubert est d'une, comment dire, recèle une richesse inouïe dont les gens qui n'en parleront dans un siècle auront peut-être trouvé de nouveaux aboutissements. Mmh. Comme si dans le langage, il y avait ce qui se donne et ce qui sera donné. C'est peut-être ça que... Enfin, j'ai proposé ça à Chantal Lacroix dans une série sur le paranormal.
Sur la voyance.
Il y a une chose intéressante, c'est l'idée de se faire son cinéma intérieur, parce que ça existe, je ne sais pas depuis quand, mais longtemps, les personnages s'imaginent des choses. Mais par exemple, Élise Turcotte, quand son personnage s'imagine des choses, elle va parler de scénario qu'elle se crée. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant, c'est que maintenant, le personnage, quand il s'imagine des choses, fait référence à des choses du cinéma.
Mm-hmm. Oui.
Ben, je vous raconte une chose épouvantable. Il y a quelques années, ça fait déjà longtemps, une quinzaine d'années, j'avais un jeune homme comme ça qui lit dans le premier cours de littérature du cégep, il lit un livre, puis il me dit, c'est le premier livre que je lis de ma vie. Puis c'est un, ça devait être un roman, je ne me rappelle plus. Et puis il me dit, hey, c'est bizarre, ça a fait des images dans ma tête. Et sur le coup, j'étais d'abord catastrophé, mais après ça, j'étais un prof heureux, parce qu'on ne se rend pas compte de ce... Ouais. De cet élément-là. Puis il y a quelques semaines, là, devant deux étudiantes qui étaient. Moi, je comprends rien! Une espèce de refus immédiat. Et puis, j'étais à côté de mais regarde, tu comprends rien, surtout. J'ai dit, bon, on commence par ouvrir les yeux. Et on essaie de lire le texte parce qu'il y avait une opposition préalable. Et là, je regardais, j'avais des yeux au texte, puis je me suis demandé si elle, cette jeune fille, elle avait des images dans sa tête. Et ça, je suis troublé depuis cette époque, depuis deux mois, parce que le texte, écoutez, le roman, c'est le grand mot. C'est pas d'une difficulté inouïe, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Et était comme ça, puis c'était un extrait de 20 lignes, c'est un commentaire composé, donc 20 lignes, et là, et la scène est complète, et puis la jeune fille, elle ne comprend pas ce qui est écrit. Puis je me suis dit peut-être que là, le cinématographe a même disparu. Je sais pas, là ça faudrait qu'un neuropsychologue me dise ce qui se passe.
Ou Chantal Lacroix.
Non, mais elle a voit des choses, je pense, plus qu'il en existe. Alors qu'elle, la jeune fille, elle ne voyait pas. Il y avait quelque chose qui se... C'était terrible. Mais tout ça pour raconter qu'il y a une chambre mentale là, dont on ne se rend même pas compte qu'elle travaille sans arrêt. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de l'onirisme, le rapport entre le cinématographe et la vie onirique, c'est vrai que là, il y a carrément des scénarios, mais pas dans le sens de ce que vous disiez, voyons, de...
Les scénarios mentaux.
Oui, le scénario mental chez Lise Turcotte, voilà, excusez-moi, chez la prof de Vieux-Montréal. Non, le numéro syndical, elle.
Du capital symbolique des arts, par exemple. Parce que même si on ne veut pas faire tomber dans la sociologie, hein, uniquement, mais je me dis, malgré tout, les références qu'on va retrouver à la musique sont pas toutes du même monde, comme celles au cinéma ou à la peinture, parce que quand on regarde l'œuvre de Guignard, là, on se dit, c'est pas n'importe quelle musique. Hein, et je pense que c'est vrai que c'est intéressant de regarder de réfléchir au capital symbolique aussi, on peut réfléchir au langage, ce sont des langages aussi qui se rencontrent, qui peuvent se... Moi qui ne suis pas du tout une sociologue ou une sociocriticienne, là, mais je ça peut-être à cause de l'exemple de Quignard, mais en même temps, en pensant au cinéma, oui. Qui est tellement présent, qui est partagé, il y a bien sûr des érudits dans le domaine du cinéma aussi, là, mais on voit bien quand on donne l'exemple de Western... c'est le western, là, c'est où les films policiers, c'est quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on connaît, en tout cas, alors que dans le cas de Quignard, c'est pas la même chose.
Ce qui m'intrigue, en fait, c'est à partir de la lecture de Quignard, en faisant d'autres lectures de romans contemporains qui traitent de la musique, c'est de voir que des figures mythiques qui reviennent, qui sont les mêmes. Alors, évidemment, oui, il y a Orphée, il y a même Charon, Charon revient chez Lien, qui n'est pas nécessairement associé à la musique. Et là, vous parliez de la peinture avec Salomé, donc chaque art a probablement son bagage mythologique aussi qui traîne avec lui. Ces figures-là sont au-delà de leur histoire mythologique ou du récit qui est rapporté dans l'histoire, il y a quelque chose d'un peu plus qui semble se greffer dans le livre.
Une part imaginaire, mais aussi toute une histoire. Et donc, une ligne mélodique où on sait que tel personnage mythologique, il y a tel destin qui l'attend et c'est connu. Et donc, une forme de programmation en disant si ce personnage-là intervient, on sait que. La chute est catastrophique ou qu'il y a une...
Un court-circuit dans l'écriture à faire, en même temps, en mentionnant, prendre un raccourci.
Mais ça, ce que vous dites, avec Orphée, le roman existe, il a été écrit par un professeur, enfin, un ancien professeur d'ici, de l'Université Laval, Hans Greiff. Le roman s'appelle Orphéo. Et quand on connaît la fin d'Orphée, parce qu'on pense toujours à Eurydice, mais vous savez qu'à la fin, ils ont été déchirés. Et à la fin, donc, Orphéo, qui est un chanteur d'opéra, qui est en fait un castrat du 20e siècle pour des raisons d'accident de voiture. Bon, je n'entrerai pas dans les détails. Mais... oui, oui, donc il est castrat, donc il est formé pour être primo romo. Et à la fin, il tourne mal, il devient vedette plutôt de rock, plutôt. Disons qu'il était destiné à se produire au Grand Théâtre de Québec, puis se produire au cinéma à l'Impérial du Saint-Joseph, qui est le temple du métal. Un des temples mondiaux du métal sans métier. Et à la fin, c'est le schéma, le mythème s'applique à Orphée. D'une certaine façon, donc, il y a une programmation, comme on a dit, le signal, et elle s'applique à la fin. Sauf que quand on pense à Orphée, on pense toujours à Eurydice, à Gluck, etc., parce qu'il fait allusion à Gluck, il fait beaucoup allusion au répertoire du premier opéra italien de l'époque, donc des vrais castrats. Le modèle. Et en fait, c'est comme ça que la peinture d'histoire fonctionnait. C'est que ce que je disais au tout début, c'est que la représentation figée pouvait fonctionner comme ou parfois la tapisserie autrefois, où on mettait des scènes bibliques, mais avec tous les éléments de l'intrigue qui se retrouvaient sur un même espace tissé. Donc, c'est que les fidèles qui connaissaient l'histoire, donc la répercutaient. Sauf que si vous faites ça maintenant avec des jeunes de 19 ans,
ça ne raconte rien.
Et ça ne raconte rien.
Ou ça raconte autre chose.
En fait, ça raconte. Ça me semble pas raconter grand-chose. Une femme avec une assiette en arrière de la tête, puis un coupon dans les mains. Et ça, je veux dire, cette année, là, j'ai eu cette surprise-là aussi. J'ai beaucoup de surprises cette année.
Ça raconte une histoire de cannibalisme.
Non, mais l'assiette, je la prends chez Prévert. Mais, non, c'est ça, j'ai présenté des vierges à l'enfant. Et puis là, il se passait rien. J'ai présenté des Guetta. Il se passait rien. C'est la même, mais le petit a grandi. Puis il a fait. Ça a mal tourné pour lui. Il a eu peine. Il n'y a rien, rien, rien. Rien, rien, rien. Donc, ça veut dire, je ne sais pas, peut-être que quand on se retrouvera dans 25 ans à propos des systèmes de la programmation, peut-être qu'on va se découvrir que les vieux schémas programmatifs ont disparu.
Mais ça, en tout cas, je pense que c'est Régis Debray, la vidéosphère, la graphosphère, ceux qui sont nés dans les années 40-50 ont découvert le bombardement d'images télévisuelles, cinématographiques, même si le cinéma existait déjà, mais je parle de la culture, le bombardement d'images depuis leur culture graphique, alors que le chemin de vos étudiants sont inverses. Mon chemin à moi aussi est inverse, le chemin probablement de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on est bombardé d'images, donc le cerveau, on arrive à notre premier livre, la tête déjà remplie d'images. Ça compte aussi pour la littérature contemporaine, je pense, pour la littérature, surtout les jeunes auteurs contemporains. Qu'est-ce que ça crée comme rapport au monde d'écrire avec la tête déjà pleine d'images de télé, de cinéma?
Pour avoir des ados,
je sais pas. Ouais, ben c'est ça. Maintenant, c'est plus vraiment le mot télé, mais le produit visuel est d'autant plus présent.
Moi, j'avais une question sur l'art religieux, parce que tantôt, tu disais, Gilles, qu'on n'avait pas de collectionneur ici, hein, l'accès à l'art était plus limité.
Ouais.
Mais l'art religieux,
il existait,
mais... Il n'y a pas, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de la littérature québécoise, mais je me dis, mais tu vois l'art religieux dans les textes? On s'en est dessus, on n'a pas l'impression. Je pose vraiment la question, là, il faudrait que je relise, mais...
Le classique. Intéressant question.
Oui, parce que de fait, la question de l'art religieux... La religion est fondamentale. Quand on regarde quels sont les premiers grands artistes de réputation internationale que notre pays a produits, c'était associé à la musique, c'est des organistes ou des pianistes, puis c'est des voix. Donc l'Église faisait office de conservatoire. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi à Shawinigan, et puis il y avait dans, en fait j'ai grandi à Almaville en haut, puis à Almaville en bas, il y a la dernière œuvre d'Ozias le Duc. Donc c'est lui qui a peint l'intérieur de l'église Notre-Dame de la Présentation. Il n'a pas terminé l'œuvre là. Alors donc parfois, je suis allé à la messe là, moi j'étais sidéré, parce qu'en fait je n'aimais pas ça, parce qu'il y avait des représentations. Bon, j'ai fait ma thèse un peu sur le symbolisme, donc j'ai pu retrouver la grammaire d'Ozias le Duc, la grammaire esthétique. Mais sur les bas-côtés, c'était des représentations que je trouvais triviales. Donc, les gars qui sont en train de charger Hebel. Mon père, j'ai travaillé à l'usine, moi. Au fond, il y avait des cultivateurs. Donc, dans un temple, il y avait le dieu avec avec un regard épouvantable qui faisait peur. Et sur les côtés, c'était des scènes totalement profanes. Moi, je ne comprenais pas ce que ça faisait dans la jeune conscience d'un gamin de 7-8 ans. Je ne savais pas ce que ça faisait dans l'Église. Sauf que tu te dis au bout de la ligne, parce que maintenant, on visite, et c'est un chef-d'œuvre. Là, tu te dis, merde, on était là-dedans. Et au bout de la ligne, dans une ville comme Shawinigan, il n'y a pas de musée des beaux-arts. Vous comprenez que l'accès à l'art était quelque chose de très, 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 très limité. Et que moi, bon, je suis parti de ma ville et puis j'ai écrit quelques bouquins. Les gens disent, ah ben, il est devenu journaliste. Parce que l'idée même de l'écrivain est un peu... Bien sûr, c'est la patrie d'Adrienne Choquette qui vivait à deux pâtés de maison de l'église en question, mais on ne le savait pas. Il y avait comme une inexistence. D'ailleurs, dans la représentation tout à l'heure, on s'est posé la question, il faudrait avoir un relevé statistique. Est-ce que le personnage de l'artiste est plus ou moins présent qu'il y a, bon, disons 30 ans? Est-ce qu'il a pris la empiété sur la place occupée par l'écrivain? Ce que je pense, c'est que maintenant, l'artiste a peut-être plus d'intérêt que l'écrivain, précisément pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que ben, l'écrivain, c'est pas un personnage envié, sauf dans de très mauvais manuscrits. Parce que moi, je ne lis pas les manuscrits qu'on reçoit à la maison d'édition. Il y a des gens qui m'en parlent, puis de temps en temps, ils me disent, bon, tu dis que... Parce qu'à l'époque, je les lisais tous. Puis j'ai beaucoup appris sur la littérature québécoise à partir de manuscrits qui n'ont jamais paru. Ce que je veux dire par là, puis je le dis sans dérision, c'est-à-dire qu'il y a une idée de la littérature qui s'exprime dans les manuscrits, qui est souvent une idée complètement retardataire. Et par exemple, à une certaine époque, on était envahi par des manuscrits de type de terroir, alors que c'était plus du tout ça. Et quand on voit apparaître un personnage d'écrivain dans de très mauvais manuscrits, ben bon, qu'est-ce qu'on voit? Ben c'est l'écrivain idéalisé, qu'on ne retrouve plus dans la littérature, parce que ça correspond à rien. Et des fois, on lit ça, puis c'est un peu triste, parce que c'est, mon Dieu, mais ça correspond pas du tout à l'idée qu'on... Enfin, donc, il y a des gens qui pensent encore que des écrivains, c'est important. Et ils le disent mal. Non, je veux dire, sur la place publique. Sur la place publique. Non, je le dis dans un pays qui est si férocement anti-intellectuel. Alors
c'est
que...
C'est ça, c'est fini l'époque d'Hernani. Tu sais, il y avait Hernani, où là, c'était ça, c'était les rockstars, c'était les jeunes
oui.
À cette époque-là. Et après, il y a eu Woodstock, puis c'est pour ça que François Bon, il dit, moi, j'ai écrit des biographies des Stones, puis de Led Zepp, parce qu'à cette époque-là, c'est dans ces figures-là qu'on se reflétait, quand on avait 17, 18, 20 ans, 25 ans.
Oui, puis c'est ça, effectivement, je fais faire des travaux de création littéraire à mes étudiants, des fois, bon, je me dis, bon, voilà, vous devrez, il y a une contrainte. Et là, oui, les vedettes de musique vont entrer à l'intérieur, parce que ça c'est quelque chose... de palpable, d'enviable.
C'est eux qui ont le capital symbolique.
Ah ben si, absolument.
En tout cas, aujourd'hui, on est plus sûr, trop aussi.
Ce sont les nouveaux mythes aussi.
Oui, mais bon, oui. En fait, c'est un peu dans l'esprit d'Edgar Morin, il y a eu un glissement vers autre chose. Lui, c'était les stars de cinéma, mais maintenant, je pense que les rockstars. Et là, regardez, quand on fait la file chez IGA, puis qu'on regarde le télé-séjour, en fait, les journaux fondamentaux, là, il y a toute une... Mais ça, c'est de la culture populaire. On parlait tantôt de tout ce qui est forme de cadre ambiant. Ça aussi, la semaine, ça envoie des images. Et ça, je les retrouve, moi, dans mes textes. Enfin, dans les textes que je lis.
La semaine, Chantal Lacroix.
Oui.
mais moi, ce que je crois, c'est...
Je suis en train de corriger pour ça.
S'il y a de la représentation d'artistes, etc., c'est justement dans ce contexte-là, ça n'a plus le même sens que quand l'artiste était là l'écrivain était la grande figure.
Mm-hmm. Ben, Bob bien... Dylan, c'est un artiste aussi, c'est différent. Hein? C'est... Bob Dylan, c'est un artiste aussi.
Non, mais là, je parle pas, de toute façon, il parle de Dylan, mais lui, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il, c'est toute une hiérarchie, disons, culturelle qui s'écroule aussi, parce que il parle de Bob Dylan, mais il parle de Nathalie Sarraute, il parle de Rabelais, il parle de tous ces gens-là qui sont des artistes. Et c'est ça qui peut être intéressant dans la représentation de l'art et des artistes, c'est que tout à coup, il y a une certaine hiérarchie ou un refus de la hiérarchie qui va se jouer aussi dans la représentation. Je pense que convoquer la peinture et la musique, déjà rien que ça, ou convoquer le cinéma, qui de toute façon est un vieillard aussi, mais c'est pas exactement la même, comment dire, on n'occupe pas exactement la même place, c'est pas exactement la même chose qu'on est en train de mettre en scène, forcément.
C'est intéressant parce que c'est aussi, par exemple, le livre de Catherine Merkakis, ça va parler de Phase Linda ou des films de Rudy Barr, oui. Mais elle va aussi parler de films de série B.
C'est ça, je crois que c'est assez contemporain, je dirais.
Mmh. Oui. Oui, mais cela dit aussi, la représentation, je vais donner une figure, John Lennon, par exemple. Il parle à partir de travaux d'étudiants de 19 ans, à partir de ce qu'on entend à la radio, qui véhicule, qui nourrit la culture populaire. Et en fait, des fois, de jeunes voix à la radio, dont on peut soupçonner qu'ils ne connaissent pas non plus la dame qu'un enfant dans les mains, mais quand ils nous parlent de John Lennon, ils nous parlent en fait du Christ. C'est-à-dire que le mythème, l'élément mythologique derrière John Lennon, il y a des figures comme ça, c'est particulièrement vrai avec Jim Morrison, donc il y en a quelques-uns comme ça, et qui, alors quand le commentateur, la commentatrice nous parle de John Lennon, et nous en, moi j'écoute ça, je me dis, merde, c'est le Christ. Elle est en train de me parler du Christ, dont elle ne connaît rien, ou en fait très peu de choses. Il y a quelque chose où Jung serait content, là, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne toujours. Et là, l'artiste, il est... l'artiste sacrifié, et...
Mais c'est ça, mais c'est pas Coltès, qui est mort jeune aussi. Ouais. Il a eu tout eu pour Jim Morrison, mais à une époque où la littérature n'avait pas sa capitale.
Ouais. Ou qui a Coltès, le petit capital, par exemple, que lui donne Brigitte Engels. Avec la représentation d'automne dernier, qui vient d'ailleurs au Carrefour, là, avec le solo avec Sébastien Carr. Mais effectivement, pas dans la presse. On verra pas. Dans la presse, on verra Ricard. Tiens, un Ricard qui joue Dédé Fortin.
Oui, mais reste que Ricard.
Dédé Fortin, par exemple, la biographie de Dédé Fortin est devenue, à l'école où j'enseigne, un livre qui est plus enseigné qu'à peu près n'importe quelle œuvre littéraire. Je le dis sans amertume, là. Donc, effectivement, il y a un déplacement, c'est-à-dire, Dédé Fortin, vous avez vu le film avec le même Ricard, là, on est dans des icônes, probablement...
Générationnelles.
Oui. Mais il y a quelque chose, générationnel, et il y a la génération des profs aussi, qui participe de ce mouvement-là.
Mais en fait, je ne suis pas certaine s'il y a un discours qui peut avoir lieu sur ces icônes-là. Il me semble qu'il y a un discours programmé, puis on ne peut pas en sortir. Et là, je parle d'une expérience personnelle pour avoir essayé, malheureusement, il y a des temps, de médire de la musique de John Lennon.
D'en parler, mais c'est
pourquoi? C'est une autre raison.
C'est un ami, c'était des collègues, c'était non, c'est impossible. Donc, on n'embarque pas, donc il ne peut pas y avoir de contre-discours ou même d'options.
Donc, ce sera devenu un gros sacré.
Je pense que oui. Donc, il y a juste un discours possible. Donc, à ce moment-là, c'est plus un discours, c'est juste une répétition de quelque chose. Il n'est pas possible de pouvoir en parler. Parce qu'on peut une liberté de parole.
Non, oui, on a la liberté de parole. Il y en a qui disent non, il est bon. Moi, je disais sérieusement, pourquoi médire de John Lennon? Au sens où, tu sais, c'est pas ça la question, s'il est bon ou pas.
Non, mais en fait, c'est d'avoir un discours critique ou d'avoir une opinion critique ou négative, et c'était purement par provocation, mais pour en parler, et de voir ce que ça donne aussi.
On parle des fois de culture populaire, mais sans se rendre compte qu'il y a un glissement de des figures comme celle-là. Donc, on parle d'un peu sacré, mais il reste qu'en culture populaire, sur le cinéma ou la musique, il y a aussi des, des... il y a un savoir, et puis il y a un tri qui s'opère. Donc, c'est pas... Autrement dit, je trouve, des fois, on met tout ça sur le même plan. En disant ça, c'est de la culture populaire.
Bien, tout à l'heure, on a glissé vite vers le séjour. Là, c'est pas la même... Juste, quand on parle, pour moi, de... J'en ai une ou la discipline, puis on glisse... séjour, c'est pas tout à fait le même.
Oui, mais c'est quand même des producteurs de sens. Et ce sens-là occupe plus d'espace auprès de d'une partie de la population que l'Église peut en occuper ou que d'autres, ou que John Lennon même peut. Mais il y a quelque chose qui fonctionne là et qui donne un nouveau cadre de référence. Il est difficile de dire quoi que ce soit à propos de Céline Dion aussi.
Ici.
Oui.
Surtout à l'Université Laval ou à l'intervention de
Talon.
Ça serait ici, c'est vrai.
Moi, c'est ce que j'ai retenu. C'est pourquoi j'ai choisi de faire mon projet.
Ah, c'est ça que ça a marché. Donc.
C'est ça, c'est ça.
Terminé avec
Céline Dion. Ils ont envie
de
voir.
Si vous représentez
on va vous remercier tous pour votre présence cet après-midi, pour cette rencontre très stimulante, très intéressante. Je remercie spécialement le CRIL, Annie Quentin, Manon G, André Mercier, René Audet pour leur soutien. Et on remercie aussi tout spécialement nos invités pour leur générosité, leur temps. Donc, Gilles Pellerin, Marie-Pascale Bublot, Karine Bissonnette et Brigitte Fontille. Merci.